Oui, alors, Mère Jean-Marie, alors, il faut que je prenne ce truc. Mère Jean-Marie nous vient de nous dire que les Dominicains sont à Bourque depuis 600 ans. Mais l'ordre dominicain est plus vieux, puisque ça fait 800 ans qu'on fête ces temps-ci, et 800 ans de la fondation. Alors, à Bourque, les Dominicains ne sont arrivés qu'en 1414. Hein, mais ils étaient déjà connus dans la ville ou dans la région, puisqu'il y avait des couvents déjà installés à Lyon depuis 1218, à Mâcon depuis 1252, à Montmélian en 1318. Et les frères dominicains venaient prêcher en Dombes et en Bugey. On en signale un vers 1300 à Saint-Martin-du-Frêne à la recherche d'hérétiques. Je pense qu'il s'agissait de Vaudois à cette époque-là. Le comte Aymon, qui était très attaché à Bourque, avait eu l'idée d'appeler les Dominicains. Il était très attaché à Bourque parce qu'il avait été guéri par la Vierge de Bourque, Notre-Dame de Bourque. Le vitrail que vous voyez à droite fait allusion à cette guérison. Mais il est mort trop tôt et il n'a pas pu faire cette fondation. Et l'idée a été reprise donc en 1414 par son arrière-petit-fils, le duc Amédée VIII, qui a obtenu du pape Jean XXIII. Alors Jean XXIII, ça peut peut-être vous étonner, mais il était considéré comme un antipape. Mais c'est lui qui a donné à Amédée VIII une bulle autorisant la fondation d'un couvent de dominicains dans la ville de Bourque. Le maître général de l'ordre, le provincial de France, l'archevêque de Lyon ont donné leur accord et le clergé de Bourque également. Alors à Bourque, il y avait déjà un couvent de cordeliers, il y avait déjà un prieuré bénédictin à Brou et il y avait une communauté de prêtres incorporés pour desservir la chapelle Notre-Dame. Et tous ces religieux ont été sollicités de donner leur autorisation parce que ça faisait un établissement religieux de plus dans la ville et par conséquent il y avait la question des funérailles, il y avait la question des legs, il y avait la question des dons et il fallait tout de même que tout le monde se mette d'accord là-dessus. Et donc en 1415, deux dominicains venus de Mâcon, le frère Robert Falcon et le frère Falk Brodelet, furent envoyés à Bourque, où ils sont accueillis par le bailli de Bresse, Guy de la Palue, dont voilà les armes, qui était seigneur de Varambon, et le bailli de la Palue les a logés dans une maison du duc, qui appartenait au duc, dans le quartier dit de la Verchère. Alors sur ce plan-là, on voit, c'est une reconstitution bien sûr, on voit à peu près où se trouvait la Verchère. Vous avez mis, voilà, le couvent des Dominicains est installé dans la rue qui est la rue du, actuellement la rue du lycée, qui est là. Vous aviez déjà dans Bourque, j'ai placé sur ce plan les cordeliers qui étaient déjà là, les Antonins, qui était de l'autre côté de la rue, là-bas, la chapelle Notre-Dame, ici. En face de la chapelle Notre-Dame, vous avez la maison de ville, qui joue un rôle important dans l'affaire, et puis vous avez la halle, qui est le lieu où l'on se réunit pour les grandes cérémonies, parce que la chapelle Notre-Dame est trop petite pour ces cérémonies. Installés donc en la Verchère, ils se mettent à construire leur couvent et leur église, et l'église est achevée très vite, en 1441. Et le maître-autel est consacré en 1448. Cette église, est le plus grand bâtiment religieux de la ville. Il comporte une nef à six travées, un jubé, un chœur de trois travées, hein, une abside à cinq côtés, des chapelles latérales et un clocher. Alors, la gravure que vous voyez là représente à peu près l'aspect que devait avoir cette église. Et c'était une église tellement importante qu'en 1458, elle a pu accueillir le chapitre provincial de l'ordre des Dominicains. Le couvent comporte en outre deux cloîtres, au sud, hein, et au sud-est de l'église. Il y a des dortoirs, réfectoires, cuisines, un cimetière, et on pense que récemment on a trouvé que le cimetière devait être derrière vous, au fond de la salle qui est là, puisque en faisant des travaux, on a trouvé des ossements. C'est peut-être le cimetière. Alors, installé à Bourg, donc, les Jacobins travaillent dans plusieurs domaines. Leur premier titre, leur premier devoir, c'est la prédication. Ils prêchent le carême, ils prêchent l'Avent, ils prêchent pour les grandes fêtes, à la demande du curé de Bourg, qui est le prieur de Broux. Les prêches, comme je vous le disais tout à l'heure, se font souvent sous la halle, et dans la halle de Bourg, on a conservé longtemps la chaire où aurait prêché Saint Vincent Ferrier, qui serait passé à Bourg en 1417. C'est un peu contesté, mais il y a une tradition sur Bourg qui, depuis, perdure. À l'origine, le prédicateur recevait Saint Florin pour la prédication, et c'était la ville, les autorités de la ville qui payaient. Deuxième rôle des dominicains, la lutte contre l'hérésie. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des Vaudois, hein, qu'il y avait peut-être dans la région. En tout cas, dans les années 1400, on avait emprisonné à Bourg une veuve qui venait de Saint-Amour et qui était suspectée d'hérésie. Malgré toutes les recherches, on n'a pas trouvé ce que les Dominicains avaient pu en déduire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette veuve. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1493, ça c'est sûr, il y avait à Bourg un inquisiteur qui était le frère Meissonnier. En 1533, un frère qui avait été emprisonné à Genève pour avoir prêché contre les hérétiques a pu s'échapper. Il est venu à Bourg prêcher à Bourg, à Genève, où sévissait, si j'ose dire, Calvin. En 1585, alors là, l'hérésie avait dû faire des progrès dans Bourg, puisque le prieur du couvent de Bourg a prêché dans la halle. Alors là, ce n'est pas la halle de Bourg qui a été démolie, mais elle devait ressembler à cela. Celle-là, c'est la halle de Châtillon-les-Dombes. Et alors, ce prieur a prêché en disant qu'il croyait prêcher à des bons catholiques et qu'en fait, il avait un ramassis d'athéistes, anabaptistes et infidèles. Les gens de Bourg ont été furibards. Hein, ça, ils ne se sentaient pas du tout hérétiques. Hein. Pourtant, il y a eu une importante communauté protestante, hein, au début du XVIIe siècle à Bourg, parce que la citadelle de Bourg avait été confiée par Henri IV à un de ses compagnons d'armes, le baron de Pardaillan, qui était lui-même protestant, et la garnison de Bourg était protestante. Donc il y avait un certain nombre de familles, hein, qui avaient accompagné les hommes de la citadelle. Mais en 1652, il ne restait plus que trois familles de protestants dans Bourg, et les dominicains de Bourg se félicitaient d'avoir extirpé ou presque l'hérésie à Bourg. Troisième rôle des dominicains, l'enseignement. Hein. En 1459, c'est un frère dominicain, le frère Denis, qui fait la classe aux enfants du quartier. En 1493, c'est eux qui examinent les candidats au professorat de l'école communale. Et au XVIIe siècle, ils se proposent d'ouvrir une véritable école avec les classes de rhétorique, de logique, de physique et même une classe de philosophie. Mais à cette époque-là, se sont installés juste en face, de l'autre côté de la rue, un collège de jésuites. Et finalement, la ville préfère donner la classe de philosophie aux jésuites plutôt qu'aux dominicains. Alors, dans Bourg, quel est l'impact des dominicains? Alors, ça varie beaucoup selon les époques et les circonstances. Au début, ils sont très bien accueillis. Ils ont des soutiens très importants. L'exemple que l'on voit ici, c'est la fameuse porte des Jacobins, qui a été offerte au couvent par Thomas Guillot. Mais il y avait aussi deux autres portails sur la rue qui ont disparu au cours de la Révolution. Ils offrent le portail, ils offrent la construction de l'église, ils demandent des chapelles, ils se font enterrer dans l'église. Ils font des legs, ils font des offrandes, et sœur Agnès Marie a trouvé un certain nombre de bienfaiteurs. Vous ne pouvez pas les faire sortir un tout petit peu. Ceux qui ont beaucoup de seigneurs, bien sûr, parce que c'était les plus argentés, le sire du Sel, le sire de Sancia, le duc de Savoie lui-même, bien sûr. Et puis vous aviez pas mal de vocations locales, comme des moines qui s'appelaient Joly de Chouin, Guichenon, Jaïr, Pichegru, Le Sage, Durand, Vaujas. Il y a des noms que l'on retrouve encore actuellement. En 1505, il y a une réforme de l'ordre. Et on accuse les dominicains de Bourg de ne pas vouloir faire cette réforme. Et les gens de Bourg prennent fait et cause pour les dominicains en disant qu'ils sont très bien, hein, et qu'ils sont très sages, qu'ils sont très bien, qu'il n'y a pas de raison de les réformer, etc. Et il y a beaucoup de jeunes bressans parmi les jeunes moines de cette époque. Mais quelques années après, la chanson n'est plus tout à fait la même. En ville, on estime qu'ils se conduisent pas très très bien. Et le principal grief, c'est qu'ils ne fournissent pas des prédicateurs. À tel point qu'en 1651, la ville menace de les expulser. Vous nous donnez des mauvais prédicateurs qui sont ignorants, mal versés en religion, dit-on. Et on menace de les expulser. En fait, c'est une question de gros sous. Parce que faire venir un prédicateur qui sache ce qu'il raconte, ça coûte cher. Et les chanoines de Notre-Dame ne veulent pas payer. Alors, il y a procès, et on finit par se mettre d'accord. Si un prédicateur apprécie bien, on lui versera 25 livres. C'est à la fin du XVIe siècle. Et puis, quand le prêcheur ne donne pas satisfaction, on dit « Ah, qu'il aille donc prêcher ailleurs ». Il n'avait pas plu. Heureusement, il y a des prédicateurs et des dominicains très appréciés. Par exemple, Jean de l'Hôpital, qui s'est fait beaucoup apprécier en soignant des malades pendant une épidémie de peste. Donc vous voyez, là, il y a un pestiféré qui est soigné par un ecclésiastique. Ou bien un prêcheur qui s'appelle Nicolas, et qui a prêché sur le paradis qu'évoque cette image de Fra Angelico. Il y a un prêcheur qui s'appelle Pierre Chapon, qui est très apprécié aussi, un autre qui s'appelle Olivier. Et puis alors, le malheur, c'est qu'il n'y a pas que les dominicains pour prêcher. Il y a les cordeliers, qui prêchent aussi. Il y a, à partir du XVIIe siècle, les capucins, les jésuites. Et je dirais que presque, c'est ennuyeux, mais il y a contestation, il y a presque bagarre entre les ordres pour savoir qui va prêcher ou qui ne va pas prêcher. Donc ça, c'est toujours la même histoire. Et quand il n'y a pas de moyens, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Suisse. Hein. C'est bien connu. Donc si on ne paye pas les prédicateurs, les dominicains ne les fournissent pas. Et puis au XVIIIe siècle, le recrutement devient beaucoup plus difficile. Au début du siècle, à Bourg, ils étaient 12. Hein. À la fin du siècle, au moment de la Révolution, ils ne sont plus que 6. Alors on arrive à la Révolution. Premier acte de la Révolution à Bourg, dans l'église des Jacobins, se tient l'Assemblée des États de Bresse chargée de rédiger les cahiers de doléances. Hein? Ils viennent dans l'église des Jacobins parce que c'est la salle la plus importante. Le frère Luc, qui est le député des Jacobins à ce moment-là, dans les membres du clergé, et c'est lui qui dit la messe d'ouverture de la session. En février 1792, le prieur remet à la ville un inventaire des biens de la communauté, vous savez, après la nationalisation des biens du clergé. Et en mars de la même année, 90, il verse 1500 livres de contributions patriotiques. Donc jusqu'à présent, ça va bien. Et à ce moment-là, lui et ses frères, les six, déclarent qu'ils veulent rester dans leur couvent. Mais l'année d'après, on les expulse purement et simplement du couvent et on y appose des scellés pour qu'ils ne puissent pas revenir. Alors qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Il y en a deux qui ont prêté le serment civique tout de suite et l'un a été vicaire à Notre-Dame. L'autre est parti vicaire en Haute-Saône. Il y en a deux qui ont abdiqué leurs fonctions au moment de la grande persécution 93-94 et il y en a deux qui se marient. Le deuxième qui se marie, à lui, avait été emprisonné à Brou et pour obtenir sa liberté, il a abdiqué ses fonctions de prêtre. Quant au couvent et à l'église, biens nationaux, ils sont vendus par petits lots. Vous voyez sur le plan de droite, vous voyez les lots. Hein, donc le lot numéro A, c'est l'église. Hein, le lot numéro B, c'est une partie du cloître. Hein, les jardins F, E, D, etc. Et vous voyez sur ce plan, on voit très bien le mur de la ville hein, qui faisait limite de la propriété, hein, ici. Voilà. Donc, nos dominicains sont partis. Hein. L'église est incendiée, hein, ça devient un terrain vague, hein. Les enfants du quartier s'amusaient au milieu des ruines, mais le souvenir des dominicains reste très vivant à Bourg. D'abord parce que de nombreuses familles avaient leur tombeau dans l'église des Jacobins. Alors j'ai noté quelques noms de familles dont les tombeaux étaient là, des Juénins, des Reverdy, des Dutour, Baudet, Bergier, Pontus. C'est des noms qu'on retrouve encore dans la région. Il y avait des confréries qui avaient leur hôtel dans l'église, celle des tailleurs d'habits, par exemple, ou celle du rosaire. Et quand on a démoli la halle au début de la Révolution, le curé de Bourg, le curé de Notre-Dame, a récupéré la chaire de Saint-Vincent Ferrier et l'a installée dissimulée dans le grenier de la cure pour éviter qu'elle ne soit détruite. Le souvenir du saint et de son passage à Bourg était tellement ancré dans Bourg que quand le culte a été rétabli et qu'on a rouvert Notre-Dame, les prêtres qui avaient été envoyés de Lyon pour assurer le culte en attendant qu'un curé soit nommé, avaient pris le nom de Mission Saint-Vincent Ferrier. Autrement dit, il y a une continuité des dominicains d'Hambourg, ne serait-ce que par le souvenir de la prédication de Saint-Vincent Ferrier. En 1824, le nouvel évêque de Belair suggère aux sœurs de Saint-Joseph de racheter l'ancien couvent des Jacobins. Et à ce moment-là, le curé de Notre-Dame leur rend la chaire de Saint-Vincent Ferrier, et sur la chaire de Saint-Vincent Ferrier, on appose une plaque. Donc on voit, bon ça a été un peu loin, on voit maintenant la chapelle actuelle des sœurs de Saint-Joseph avec la façade sur la rue, et dans le plan que vous voyez au milieu là, il y a l'emplacement de la chapelle de Saint-Joseph par rapport à la chapelle des Jacobins. Vous voyez que la chapelle, pour grande qu'elle est tout de même un peu plus petite, tout le chœur n'a pas été rétabli, et les chapelles qui se trouvaient à gauche sont maintenant pas dans la chapelle, mais c'est ce qu'on appelle le...
C'est la continuité.
C'est la continuité. Voilà. Alors je saute un petit peu quelques années, et le père Lacordaire restaure l'ordre des dominicains en France en 1843, et une dizaine d'années plus tard, il vient à Bourg à l'occasion d'un congrès des conférences de Saint-Vincent de Paul. Et à cette occasion, il rencontre l'abbé Borges, que vous voyez ici, qui est l'aumônier de l'Hôtel Dieu de Bourg. Le père Lacordaire le fait entrer dans, où il était déjà dans le tiers ordre dominicain, et il donne à l'abbé Borges la permission d'y admettre à la profession ce qu'il voulait. Et c'est ainsi qu'en 1855 entra dans cette fraternité, dans ce tiers ordre, Mariette Faré, qui était une couturière de Bourg, et qui fit profession, dans le tiers ordre sous le nom de Sœur du Cœur de Marie. Et à cette occasion, elle lut une vie de Saint-Dominique, et elle fut frappée par un épisode particulier où l'on voit Saint-Dominique passer la nuit dans une auberge dont le patron était hérétique et réussit à le convertir. Elle se dit que pour atteindre les gens, il ne faut pas attendre qu'ils viennent à vous, mais il faut aller les trouver chez eux. Voilà l'intuition de Mariette Faré. Et cela se rencontre avec l'intuition de l'abbé Borges, qui, lui, aumônier de l'Hôtel Dieu, aumônier de l'hôpital, s'occupait des malades à l'hôpital, mais était navré de ne pas pouvoir s'occuper des malades qui étaient chez eux. Donc, l'abbé Borges est à l'origine de la fondation à Bourg du couvent de nos chères dominicaines, rencontrant l'intuition de Mariette Faré, aller chez les malades et leur faire un bien aussi bien matériel que spirituel. Voilà. Alors, nous arrivons au dernier épisode. En 1860, quatre religieuses prennent l'habit dans un appartement de la rue Lalande. Il y avait Mariette Faré, sa sœur, une amie et une sœur converse. Dans la rue Lalande, elles sont restées à peine une année, mais le père Lagrange, qui était enfant à ce moment-là, il avait 5-6 ans, se souvenait, il habitait lui rue Beaumaillet, et il se souvenait d'avoir entendu depuis le jardin de sa maison l'harmonium des dominicaines. Les dominicains, vous voyez, se retrouvent comme cela. Rapidement, donc, elles abandonnent l'appartement de la rue Lalande. Elles font une étape dans une maison qui est maintenant dans la rue d'Hector Bache. Et en 1864, elles font l'acquisition d'une maison. Vous voyez, là. Rue Impasse du lycée. Donc nous nous retrouvons dans le même quartier, puisque l'impasse du lycée est parallèle à la rue du lycée actuel. Grâce à de très généreux... Alors là, vous voyez l'impasse avec la maison acquise par les dominicaines, et vous voyez le portrait de Mariette Faré, devenue Mère Thérèse. Grâce à des donateurs généreux, dont le plus important est le comte Léon, que vous voyez avec ses belles moustaches là, elles peuvent faire des aménagements de la maison et construire la chapelle, qui existe toujours, puis de construire ensuite le noviciat, que vous voyez là, en bas. C'est également le comte Léon qui a permis à ces religieuses qui jusqu'à présent portaient un habit noir, de porter l'habit blanc des dominicains. Ça n'a pas été sans mal, parce que le curé de Notre-Dame estimait que qu'elle soit habillée comme elle voulait, ça n'avait pas d'importance. Elle n'était pas tellement bien contente, et quand enfin elles ont eu l'autorisation officielle, elle n'avait plus l'argent pour acheter le tissu nécessaire pour faire confectionner les robes. Et c'est le comte Léon qui a payé pour cela. Mère Thérèse n'avait pas une très très bonne santé. Plusieurs des jeunes sœurs étaient tuberculeuses. Il y a eu beaucoup de décès. Mais malgré cela, l'œuvre des dominicaines s'est développée à Bourg. On demande leur aide à domicile, on vient demander conseil à Mère Thérèse, qui est toujours de bons conseils. Par exemple, en 1870, au moment de la guerre contre les Prussiens, à Bourg, on redoutait beaucoup l'arrivée des Prussiens. On se souvenait de l'invasion en 1814, c'était des Autrichiens, mais enfin, bon, les Prussiens, bon, et on avait dit à Mère Thérèse, il faut vous en aller, on s'en va, on quitte la ville. Et Mère Thérèse a dit, il n'y a pas de danger, on reste, et puis si jamais les Prussiens arrivent, moi, je leur fais la soupe. Hein, voilà. Et elle est restée, et les Prussiens ne sont pas venus. Mais il y avait beaucoup de blessés et de malades parmi les soldats de la guerre, et on avait mis des ambulances et des hôpitaux un petit peu partout, et en particulier il y avait une ambulance qui était installée dans ce qui est l'hôtel de Meillona, ce qu'on appelle horriblement H2M à Bourg, et cette ambulance là a été confiée aux dominicaines, et ils recevaient surtout des soldats malades et en particulier des turcos. Et Mère Thérèse est intervenue vigoureusement parce qu'on voulait absolument obliger ces malheureux à boire du vin, alors que leur religion leur interdisait. Elle a exigé qu'on leur serve du café à la place. Ça n'a pas duré longtemps, mais elle a été très efficace. Et puis après 70, l'Empire étant anéanti, la République s'installe et au bout de quelques années, elle devient très anticléricale. Les couvents se sentent menacés, mais Mère Thérèse a eu l'astuce de faire une société civile propriétaire des bâtiments, et quand on lui demanda de s'en aller, elle a dit qu'elle était chez elle et qu'elle ne s'en irait pas. Elle est très soutenue, même par les gens de la ville, des bien-pensants, mais même par des révolutionnaires, des rouges, comme on disait. Par exemple, témoignage d'un rouge qui dit si la vraie République arrive, il estimait que la République de l'époque n'était pas encore assez rouge, hein, voilà. Si la vraie République arrive, il ne faudra pas s'aviser d'aller chez ces bougres de sœurs dominicaines, hein, pour les tracasser. Je me charge d'aller monter la garde à leur porte, car ces filles-là, tout le monde doit les respecter. Ça veut dire que nos dominicaines de Bourg étaient vraiment très appréciées dans tous les milieux. De fait, d'ailleurs, malgré la visite d'un gendarme qui était le pauvre homme bien embêté, j'ai pas trouvé un de gendarme. Le couvent n'a pas été inquiété. Malheureusement, à la fin du siècle, les deux fondateurs sont morts. Le père Borges est mort en 1892. Hein, il avait presque 100 ans. Et Mère Thérèse l'a accompagné en quelque sorte deux années plus tard, en 1894. Et la disparition de ces deux fondateurs aurait pu marquer un certain déclin de l'ordre de la congrégation des dominicaines, surtout en début du XXe siècle où on n'était pas du tout favorable aux ordres religieux. Mais la population de Bourg était très attachée aux dominicaines. On a continué à recourir à leurs bons soins à domicile et dans le dispensaire qu'elles ont créé en 1914, au moment de la guerre. Et les vocations n'ont jamais manqué, à tel point que cela a permis d'ouvrir d'autres maisons. La première a été à Loudun, puis il y en a une à Lyon, à Trévoux. Donc on voit les bâtiments là. Même à Thiès, au Sénégal. Voilà. Et en Guadeloupe, à Planchette. Elles ont œuvré dans ces maisons, hein, pendant des années, mais malheureusement, en cette deuxième moitié du XXe siècle, les recrues étaient moins nombreuses dans les années 60, hein, et elles ont été obligées de fermer ces maisons et de se rapatrier toutes à Bourg. Ouais. Mais elles ont maintenu leur habit, alors qu'il y avait des ordres religieux qui s'habillaient en civil. Ouais. Les dominicaines de Bourg ont conservé leur habit, et elles ont conserver aussi l'idée bien nette que les soins qu'elles donnaient étaient gratuits. C'est-à-dire que les gens qui se font soigner, hein, ne versent que ce qu'ils veulent, ou s'ils ne versent rien, ben, c'est comme ça. À Bourg, donc, elles sont toujours là. Hein, et depuis une vingtaine d'années à leurs activités de soignantes, elles ont ajouté un éveil de la foi pour les tout-petits. C'est à la demande des parents et à la grande satisfaction des 10 parents. Et il y a de nombreux enfants qui, depuis 20 ans, viennent chez les dominicaines. D'autre part, elles prennent part aux activités de la paroisse Notre-Dame. Il y a toujours une dominicaine au conseil pastoral de la paroisse. Les dominicaines assurent aussi une équipe des funérailles. Donc, elles sont tout à fait intégrées dans la ville et dans les activités de la ville. Donc, on peut, comme par le passé, les rencontrer, les voir, soit à l'église, comme on le voit au milieu, soit chez les gens où elles soignent les malades, les mourants. On les rencontre aussi dans les rues de la ville, soit à pied, faisant des courses, soit en voiture, soit à bicyclette. Voile au vent, hein, ce qui montre leur modernisme, et elles sont toujours à l'écoute des gens qui leur confient leur joie, leur peine, leurs difficultés. Et pour terminer, je voudrais citer l'exclamation d'une vieille Bressane à qui je demandais ce qu'elle pensait des dominicaines et qui tout spontanément m'a dit les dominicaines, mais elles font partie de la famille. Alors, je vous remercie.